Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Osmose Radio. Chers auditeurs, vous êtes avec Inès sur Osmose Radio au Nouveau-Tel d'Avignon et nous partons en voyage. Había una vez. Es va einmal. Once upon a time. Il était une fois des langues. Des drôles d'histoires vous sont racontées, peut-être des histoires drôles, hein, tous les jours, donc à 18h au Théâtre de Lille 80. Et j'accueille ces hommes de parole. Robin Recourt de la compagnie Baladon.
Bonjour.
Bonjour. Et Stéphane Ferrandez.
Bonjour.
Bonjour, qui est performeur et auteur, conteur de Rakugo. J'arrive même pas à me dire. Oui, donc, quelle est votre histoire qui vous a amené à cette pièce, vous? Quelle est votre histoire personnelle qui vous a amené?
Mais ça remonte à... Par rapport à cette pièce, ça remonte à maintenant 5 ou 6 ans, à une époque où je fréquentais un peu les comédie clubs du sud de la France, notamment à Montpellier, mais aussi à Aix-en-Provence et puis à Marseille. Et dans ce cadre-là, moi j'ai une formation de conteur, mais comme j'avais des amis humoristes qui m'invitaient sur leur comédie club, j'essayais de trouver dans mon répertoire de conteur les histoires qui étaient les plus susceptibles de plaire à un public d'humoristes. Donc je suis allé chercher du côté des histoires drôles, des histoires humoristiques. Et un jour notamment, j'avais un peu détourné le conte du petit chaperon rouge pour le raconter en anglais, d'une manière un peu rap, américain. Et en prenant une version ancienne, traditionnelle, un peu gore, et en la détournant, ça a fait beaucoup rire le public du Comedy Club de Montpellier. Et du Montpellier Comedy Club et puis par jeu finalement on s'est dit avec les organisateurs de ce Comedy Club que tous les mois j'allais revenir sur scène en racontant une histoire dans une langue différente, sachant que la première histoire que j'avais racontée en anglais, tout le monde l'avait comprise parce que je parlais un anglais qui était correct mais avec un fort accent français, et en allant chercher les mots les plus transparents et puis en jouant beaucoup avec le corps, avec le mime. Donc j'ai continué ça avec sur d'autres langues, l'espagnol, puis l'allemand, puis le portugais. Et puis un jour on m'a dit, mais là il y a un concept de spectacle, il manque peut-être juste de raconter une histoire en arabe et puis en italien. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé deux ou trois histoires de plus et j'ai monté le spectacle, j'ai joué le spectacle et c'est un spectacle qui a eu du succès. La première année, c'était il y a 3 ans. On l'a joué à Avignon, je dis on parce qu'à chaque fois j'étais accompagné de musiciens. Aujourd'hui sur Avignon, je joue moi-même d'un instrument de musique, donc c'est plus un seul en scène, avec un invité quand même sur cette édition-là, c'est Stéphane qui fait du rakugo et dont j'apprécie énormément le répertoire.
Et qui nous amène donc au Japon, oui. Avec des gestes et des histoires.
Le rakugo est un art qui a près de 400 ans, qui se transmet de maître à disciple au Japon, à Osaka, là où on était, avec Sand Garbuya qui est l'auteur en fait, et qui adapte les histoires et qui me met en scène. Et on est parti en 2010, dans le cadre de la Villa Kujoyama, la Villa Médicis au Japon, apprendre avec les maîtres d'Osaka cet art de la parole, qui est un art à la fois de la pantomime et du stand-up, mais assis, puisque ça touche parfois l'actualité, en utilisant toujours le thème des histoires traditionnelles. Et donc, ces histoires se perpétuent depuis près de 400 ans, et on utilise un éventail et une serviette de tissu qui permettent de symboliser plein de gestes de la vie d'autrefois au Japon, d'Edo ou de Meiji, pour résumer.
Donc là, effectivement, on a du stand-up assis, déjà c'est étonnant, et vous avez parlé aussi des gestes tout à l'heure. Donc c'est pas seulement un voyage à travers des langues et des histoires, mais dès qu'on change de culture, il y a aussi des gestes qui changent, des positions de corps. Ça c'est assez étonnant et en même temps c'est universel, hein, on s'y retrouve. Qu'est-ce que ça joue un rôle important?
Oui. D'ailleurs, dans certaines cultures, on parle plus avec le corps que dans d'autres. Dans l'histoire que je raconte en italien, spontanément, sans même m'en rendre compte, je vais parler beaucoup avec les mains. Alors bon, elle n'y est pas dans cette version-là du spectacle, parce que sur cet Avignon, il a fallu choisir dans une vingtaine de langues. Sur ce concept de spectacle, j'ai 3 spectacles en fait, une vingtaine de langues, une vingtaine d'histoires. Ici, on a essayé de faire une sorte de best-of, et ça fait qu'on est un peu frustré parce qu'il y a l'histoire en italien qui n'y est pas, l'histoire en russe qui n'y est pas, l'histoire en portugais qui n'y est pas, mais on a quand même 10 histoires dans 10 langues différentes. Et je pense que c'est en italien où j'utilise le plus je sais pas comment je pourrais appeler ça, les habitus, la corporalité du langage qui passe par le corps.
C'est quelque chose aussi que nous connaissons quand nous-mêmes nous voyageons en fait dans différents pays. Forcément, les gestes n'ont pas forcément la même signification, et il faut que je m'y retrouve en tant que voyageur aussi. Souvent, effectivement, les Italiens, on les exprime aussi par les mains.
On rentre à la fois dans une musicalité particulière, oui, en changeant, ou dans une prosodie particulière, en passant d'une langue à l'autre. Et c'est assez étonnant parce que ça vient presque instinctivement avec les mots de la langue. C'est une musicalité bien particulière qui se pose, et un ancrage dans le corps bien particulier qui se met en place.
Donc en fait, en tant que spectateur ou nos auditeurs, à quoi ils peuvent s'attendre dans cette pièce?
À quelque chose de très inattendu. Très souvent, les spectateurs sont étonnés du spectacle parce que c'est un spectacle qui sort un petit peu des chemins balisés. Il est difficile à classer dans un registre ou dans un autre. Ça ressemble à du conte, mais c'est pas vraiment du conte. Ça ressemble à de l'humour, mais c'est pas vraiment de l'humour. Il y a certains spectateurs amoureux des langues qui viennent. Alors même si on dit, lorsqu'on traque les gens dans la rue, c'est si vous êtes nul en langue, il n'y a pas de problème, vous allez comprendre toutes les histoires. Mais si vous êtes amoureux des langues, ben, ça va être intéressant aussi parce que vous allez pouvoir comparer les langues les unes les autres, faire un peu le jeu de cette différence, et ça va être une sorte de voyage autour du monde. Alors parfois dans le public, on a des amoureux des langues qui me disent « Ah oui, ben c'était un spectacle un peu à ça qu'on s'attendait. Peut-être on n'imaginait pas qu'il serait aussi dynamique, mais on s'attendait à quelque chose d'un petit peu comme ça. » Et puis on a aussi beaucoup de spectateurs, la majorité sont surpris parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à cette forme de spectacle-là. Et puis il y a un tout petit groupe de spectateurs, et je pense que vous en faisiez partie, qui sont des amoureux des langues, et qui me semblent être des spectateurs qui sacralisent un petit peu les langues, et parfois qui éprouvent un sentiment un petit peu, pas de malaise, mais ambigu par rapport au fait que je puisse tordre à certains moments les langues pour pouvoir les faire comprendre au public, et qui se demandent si c'est bien respectueux ce que je fais avec les langues lorsque je dis par exemple en allemand Küchen au lieu de dire Küchen, ou lorsque en italien par exemple, pour prendre un exemple que je reprends souvent, à un moment donné je dois dire il accepta, et je vais dire accepta en rajoutant un P alors que je devrais dire en italien accetta, mais si je dis accetta, un français qui ne comprend pas l'italien ne comprendra pas ce que je vais dire, alors qu'en rajoutant ce P qui n'existe pas, ben, ça me permet de me faire comprendre par un français qui ne comprend pas l'italien et par un italien qui ne comprend pas le français. Et j'essaie de jouer sur cette crête-là pour être toujours compris par le public, qu'il soit italien ou français, qu'il soit familiarisé avec la langue ou pas. De toute façon, il est impossible pour 99% des spectateurs d'être familiarisé avec toutes ces langues.
Toutes ces langues, ça c'est, à mon avis, c'est impossible en fait, parce que vous avez vraiment un large éventail en fait. On part jusqu'en Chine ou donc jusqu'au Japon. Et oui, effectivement, c'est étonnant en fait. On pense beaucoup à des différences d'abord. Et dans votre spectacle, en fait, on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas si éloigné que ça, et on peut jongler avec facilité. Bon, effectivement, moi, je parle plusieurs langues, mais je l'ai appris. Donc, effectivement, je mets un peu un point d'honneur à vouloir les parler correctement, étant allemande à la base. Mais effectivement, ça se passe avec humour, facilité, agilité, légèreté. Et le public est conquis. C'est ce que vous constatez tout au long du festival.
Ouais, le public est conquis et souvent impressionné à la fin du spectacle. Comment dire, et décomplexé par rapport aux langues. Ouais. Parce qu'il se dit, tiens, c'est étonnant, j'ai écouté pendant 10 minutes une histoire en allemand, je pensais ne rien comprendre en allemand, j'ai tout compris à l'histoire. Donc ça permet de décomplexer un peu le public et aussi de leur faire prendre conscience que dans les langues, il y a beaucoup plus de vrais amis que de faux amis. Et lorsqu'on essaye, lorsqu'on n'est pas sûr du mot, qu'on ne connaît pas le mot dans la langue qu'on essaye de pratiquer, et qu'on utilise le mot de sa propre langue en essayant de le sortir avec la musicalité de la langue cible, eh bien on se rend compte que très souvent ça fonctionne. Alors à l'école, je me souviens de mes enseignants qui nous répétaient souvent « attention aux faux amis ». C'est vrai qu'il existe des faux amis dans les langues, mais moi le message que j'essaye de faire passer, c'est qu'il y a plus de vrais amis dans les langues que de faux amis, et qu'il vaut mieux essayer de dire les choses quitte à se tromper plutôt que de se taire et de ne pas communiquer. Je pense que la langue doit être perçue plus comme un pont que comme une barrière. Absolument. Et c'est ce message-là que j'essaye de transmettre à travers ce spectacle, comme vous le disiez, tout en légèreté et avec de l'humour.
Oui, ça serait bien que ça inspire les spectateurs à oser. Si on n'ose pas, en France, on fait partie des gens qui, c'est vrai, dans le langage... Quand on va à l'étranger, on n'ose pas. Et en fait, plus on essaie de parler une langue, que ce soit le japonais ou une autre, qui nous est au départ très étrangère, mais finalement, plus on va tenter, même avec des fautes, et plus l'autre va être heureux qu'on tente de parler dans sa langue. Et oui, ça va s'ouvrir encore plus vite.
Et on peut même vivre dans la vie quotidienne, en fait, en voyage, des moments rigolos, hein, puisque... on en a parlé hors micro aussi, on peut vivre, enfin, en utilisant des mots pas tout à fait habituels dans une langue, bon, on peut créer des rires en fait chez nos interlocuteurs et en même temps...
Et créer la poésie également.
Oui. Ouais,
c'est le fait de parler dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, ça poétise la langue cible et ça la renouvelle avec humour. Très souvent, les spectateurs qui ont pour langue maternelle les langues que je torture un petit peu sur scène sont amusés de manière positive, n'ont pas du tout l'impression que je me moque de leur langue, au contraire, ils la redécouvrent en quelque sorte avec humour et avec poésie.
Donc, est-ce qu'on est prêt peut-être pour avoir un exemple du japonais, qui est quand même pas une langue qu'on entend tous les jours? Un petit passage.
Un extrait de...
Un extrait ou peut-être même des gestes.
Ah oui, des gestes sera peut-être... Oui, il y a une caméra, c'est vrai, il y a un peu de casque.
Je pense que mieux, parce ça que donne une
expressif.
Idée.
Ok. Le rakugo se pratique avec l'éventail, le sensu, et le tenugui, la serviette de tissu. Et avec ces deux objets, le conteur va pouvoir... simuler un mangeur de nouilles. Ça n'est pas dans le spectacle, mais donc on peut avoir un grand bleu nouilles et les attraper avec l'éventail en guise de baguette, et tandis que la main forme le bol, on mange les nouilles qui sont très bonnes et délicieuses. Elles viennent d'Osaka, c'est toujours très bon, on cuisine très bien Osaka. L'éventail peut également devenir un grand bol à saké. Ou également un petit bol avec la main, un petit verre à saké carré, comme au temps des samouraïs. On peut fumer la petite pipe japonaise. À ce moment-là, on a une blague à tabac en guise de tissu pour attraper de la boule. On allume un brasero. On fume, et puis déjà il faut changer la boule de tabac car la petite pipe japonaise qui s'ouvre est très petite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore un dernier petit extrait. Un ciseau. On est un jardinier et on peut couper un bonsaï à sa juste mesure si on a un mètre de kibana, par exemple. Et pour un peu de japonais, je vous dirai juste une formule que tout le monde apprend à la maternelle, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Jugemu Jugemu Goku no Seriki de Kaijari Suigyo Suigyo Matsu Unramesu Furametsu Kuneru Tokoro Nisumu Tokoro Yaburakoji no Burakoji Paipo 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 no Shoringan Shoringan no Gorindai Gorindai no Popokopi no Popokonao Chokume no Chosuke. Voilà. Et parfois, quand on l'appelait, ça mettait du temps parce que c'était son nom et il lui portait bonheur. Voilà, c'est un peu de japonais.
Donc, chers spectateurs, vous voyez avec peu de moyens, on peut s'y retrouver dans les gestes du quotidien et comprendre, même si on ne comprend pas les mots. Et ça, c'est magnifique, en fait. Hein, ça lit et c'est très drôle. C'est vraiment très, très drôle et très léger, cette pièce. Donc, bah là, on fait un peu un voyage dans le monde, mais le voyage dans l'avenir, vers où est-ce qu'on se dirige? Et peut-être ensuite, on finira avec quelques notes de musique, hein, et avec l'histoire aussi de ce joli instrument.
Mais Stéphane, comme moi, nous avons une formation d'anthropologue, d'ethnologue. Et pourquoi je dis ça? Parce que...
Ouais.
On va essayer de bien sûr d'aller beaucoup plus loin dans la diffusion de ce spectacle qui fonctionne, et c'est aussi pour ça qu'on vient à Avignon pour rencontrer des programmateurs et pour le faire vivre. Mais en tant que scientifique, moi personnellement, je suis enseignant-chercheur en sciences du sport, non spécialisé dans l'anthropologie, et par ce biais-là, je suis en train de créer un nouveau spectacle sur les Jeux olympiques antiques, qui s'appellera Olympiakos Agones, l'an 1 de la culture grecque. Et ça, c'est un des projets que j'ai à moyen terme, de construire ce nouveau spectacle-là, qui sera un spectacle ancré sur l'histoire du sport. Voilà, ça c'est pour les projets. Toi Stéphane?
Ben nous, alors peut-être qu'on se retrouve sur un projet, on est en train de penser à des choses, là, encore hier soir, on verra. Mais bon, c'est trop à l'ébullition, mais... On fera peut-être quelque chose à deux un jour. On y pense très fort. Pour l'instant, nous, on a créé un spectacle qui s'appelle Marcher vers le vent, qui a été joué pour l'instant en février dernier à la Maison de la Culture du Japon à Paris, à la MCJP. Et c'est un spectacle qui présente le Rakugo, où on suit un conteur... occidental qui, enfin c'est pas un conteur mais un personnage occidental qui fait un rêve et ce rêve le conduit au Japon dans la coulisse du Yosei, le cabaret où on raconte les conteurs dans les Rakugoka, et les spectateurs peuvent voyager depuis la coulisse avec cet homme, découvrir ce qu'est le Rakugo. J'en dis pas plus, on s'habille sur scène, enfin bon, y a tout à découvrir jusqu'au port du kimono. Et c'est le spectacle qui est en pleine diffusion actuellement. Et on a d'autres projets encore sur le Rakugo, mais on y reviendra.
Très bien. Donc un premier contact peut être pris à l'issue du spectacle. Vous êtes toujours là à discuter donc avec vous, chers auditeurs. Donc encore une fois, cette pièce, Il était une fois des langues, se joue tous les jours à 18h encore jusqu'au 29 juillet à Lille, au théâtre Lille 80.
Oui.
Donc on vous souhaite encore bon voyage et surtout des rires qui portent des publics. Et venons donc à cet instrument qui fait partie du spectacle.
Oui, mais comme il est sur l'affiche, je me sens un petit peu obligé d'en jouer pendant le spectacle. Effectivement, dans le spectacle, il y a une petite histoire que je raconte en chinois, une petite histoire chinoise, et je m'accompagne d'un cet instrument qui s'appelle un dulcimer, qui n'a rien de chinois, mais qui est un instrument assez rural, qui est pas trop utilisé dans les musiques de cour, qui est plutôt un instrument européen qu'on retrouve dans la musique folk européenne, et qui se fabrique assez facilement. Il est de la famille des épinettes. C'est la raison pour laquelle on le retrouve souvent dans la musique folk européenne et également américaine.
Que vous avez fabriqué? Alors,
j'ai fabriqué avec... j'ai travaillé pendant 3 ans chez des luthiers, ce qui m'a aidé dans une autre vie, on va dire, qui m'a aidé à comprendre un peu l'art de la lutherie. Dans ce cadre-là, j'ai fabriqué ou aidé à fabriquer des guitares, et je me suis fabriqué une dizaine d'instruments comme ça, un peu rustiques, dont celui-ci. Voilà, qui se joue de manière posée sur les genoux. On peut dire que c'est un ancêtre de la guitare.
Ça se joue avec un médiator ou au doigt. Et c'est un instrument qui se marie bien avec la voix. Et avec l'ambiance de certains contes. Un conte sur deux dans le spectacle est humoristique et un conte sur deux est poétique. Le Dulcimer, c'est plutôt adapté au conte poétique. Il était une fois un chasseur qui avait tellement couru après le cerf, qui était tellement fatigué. Lorsqu'il allait tuer, il était tellement tard. Il n'avait plus la force de le ramener à la maison, alors il a trouvé un trou, une cachette. Il a mis le cerf au fond du trou et il est rentré chez lui. Alors et ça peut se jouer aussi comme ça, avec une petite baguette.
Voilà, merci pour ces sons pas habituels du tout et poétiques. Donc la suite de l'histoire et toutes les autres, avec beaucoup d'humour, vous pouvez le découvrir donc au Théâtre Lille 80. Merci beaucoup de votre venue et encore bon festival.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.